France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, nous accueillons dans nos archives, aujourd'hui et demain, l'historienne de l'art Françoise Cachin, qu'Olivier Bernager avait reçu dans son émission « La clé des sentiments » sur notre antenne en 1991. À cette époque, Françoise Cachin était directrice du musée d'Orsay, un poste qu'elle occupait depuis l'ouverture du musée en 1986. C'est son regard sur la musique dont il sera question au cours de cette émission. Françoise Cachin avoue ne pas être particulièrement passionnée par la musique, mais son écoute s'avère très sensible et au fil des œuvres qu'elle a choisi de programmer, on découvre qu'elle est très touchée par Monteverdi, qu'elle a une passion pour Chopin et que le prélude de L'Or du Rhin de Wagner la bouleverse. Voici donc la première partie de cette émission. Françoise Cachin était l'invitée d'Olivier Bernager sur France Musique le 15 décembre 1991.
Françoise Cachin, je me demande bien, vous qui vivez au milieu des tableaux, qui vivez au milieu des toiles de maître, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de vous arrêter devant un tableau et puis lui trouver une correspondance, pour employer un mot un petit peu baudelairien, avec la musique, bien sûr?
Écoutez, ça, je ne sais pas si je pourrais vous répondre très clairement. Pour moi, la peinture, c'est plutôt le silence. C'est plutôt le contraire. Je suis pas du tout spécialement musicienne, ni mélomane. Je suis pas quelqu'un qui va souvent au concert ou à l'opéra. Je suis entourée de gens qui y vont beaucoup plus que moi. La plupart de mes amis adorent la musique et moi je me sens tout à fait en retrait. J'aime beaucoup de choses, comme je vais vous le dire. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression que je les aime un peu en dehors de ce qui est véritablement moi-même. Et je les aime quand ça me rappelle d'autres choses. Donc, on ne peut pas dire mieux à quel point on est peu mélomane. C'est le contraire, c'est quand j'écoute de la musique que je pense à d'autres choses, que cela m'évoque des choses que j'ai lues ou que j'ai vues, et je me laisse ensuite emporter à écouter de la musique. Mais c'est le contraire qui se passe. Je n'entends jamais de musique quand je regarde un tableau, jamais.
Mais cette correspondance, est-ce qu'on peut dire qu'objectivement, elle existe lorsqu'on imagine, par exemple, certains effets de piano voulus par Debussy, de brouillage, par exemple, si on écoutait Brouillard de Debussy, qu'on n'entendra pas dans cette émission, parce que vous ne l'avez pas choisi, mais il y a une sorte d'effet de gonflement, comme si l'air allait s'épaissir, qui pourrait parfaitement rappeler certains tableaux impressionnistes. Donc
bien
ça, les peintres et les musiciens, à certains moments de leur cohabitation, si
bien sûr,
dire,
et d'ailleurs, sens. Vous allez voir, je m'en suis rendu compte après, les musiciens que j'ai choisis me font penser à d'autres choses dans d'autres domaines, et en particulier la peinture ou la littérature. Mais c'est le contraire, c'est ce que vous décrivez très bien. Effectivement, quand j'entends du Debussy, je pense à Monet ou je pense à des impressions
citer,
privées,
oui.
Bien sûr. Mais en regardant Monet, je ne pense pas à Debussy.
C'est ça, ça marche dans un sens, ça ne marche pas dans l'autre. Vous n'avez pas eu de vous-même de formation musicale ou de goût musical qui aurait été un petit peu infléchi par
le milieu familial. Pas du tout. Le milieu familial, sauf une grand-mère que j'ai adorée, dont je vais dire un mot, parce que le premier morceau de musique que j'ai choisi, c'est en souvenir d'elle, et c'est surtout la première musique que j'ai jamais entendue, en tout cas dont je me souvienne. Je devais avoir 3, 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas, et je m'en souviendrai toujours, tout d'un coup. Cette musique est entrée dans la pièce et, paraît-il, j'ai adoré ça, je l'ai redemandé pendant des années et je dansais dessus, enfin comme font tous les enfants, tout ça est tout à fait banal, mais je l'avais complètement oublié et c'est en entendant récemment justement les danses polovdiennes de Borodine que cette petite madeleine auditive est arrivée et j'aime toujours beaucoup cela, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi mais je l'ai choisi pour démarrer au fond mes émotions, puisqu'il s'agit d'émotions dans votre émission, je l'ai choisi comme une des premières émotions, la première émotion musicale sans doute que j'ai jamais ressentie.
Voilà le fameux extrait des danses du Prince Igor de Borodine, joué par Léopold Stokowski avec l'orchestre, le Royal Philharmonic Orchestra, et le chœur. Il ne faut pas oublier le chœur. Qu'est-ce qui a tiré la jeune fille que vous étiez?
Oh, François, c'était pas la jeune fille, c'était l'enfant.
L'enfant, pardon.
Oui, tout à fait. Mais en le réécoutant, je m'aperçois que c'est vraiment une musique faite pour les enfants. C'est la joie de vivre, c'est le cirque, on voit tout de suite. Ce qu'on peut faire avec son corps, avec cette musique-là, on saute, on bondit, j'ai adoré ça, j'ai évidemment adoré ça, et ça me rappelle la seule personne de ma famille qui était véritablement musicienne, qui est devenue peintre, mais à l'origine qui était pianiste et qui avait étudié à la Scola Cantorum, et vraiment le bribes de connaissances sur la musique, c'est à elle que je le dois. Elle s'appelait Jeanne Selmersem Desgranges, et c'était un excellent peintre. Peu connue, mais une femme exquise, et voilà, je lui dédie ce souvenir.
Ouais. Il y avait un piano chez vous à la maison ?
Oui, j'ai toujours d'ailleurs son piano, c'est extraordinaire. Ça fait rire tout le monde, parce que j'ai un piano sublime, que beaucoup de gens voudraient avoir,
et
qui avait été son cadeau de mariage. C'est un demi-queue Steinway de 1897, venu en bateau de New York, et que j'ai gardé... Elle a fait du piano dessus.
Vous n'avez pas eu envie d'aller toucher ce piano?
Dans mon enfance, elle avait des amis pianistes. Elle avait un pianiste. Ouais. Un ami pianiste s'appelait Alexandre Kagan. Je ne sais pas si. Ouais. J'ai comme ça des souvenirs d'enfance très lointains. Et le piano est toujours là, qui me reproche de ne jamais avoir fait de piano et de ne pas en avoir fait faire à ma fille, etc.
D'accord. Alors, Stravinsky, est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que vous avez envie d'une musique tonique, d'une musique qui nous. Mettre de bonne humeur, en quelque sorte.
Peut-être, j'ai choisi, c'est sans doute banal, mais c'est une des choses que j'aime le plus, c'est un petit morceau du Sacre du Printemps. Je pense qu'à partir des danses polovdiennes, c'est un peu le même tempérament que j'y retrouve.
Puis c'est un ballet, encore une fois.
C'est un ballet, c'est vrai. C'est vrai. Cela dit, c'est pour moi, aujourd'hui, infiniment plus beau, et ça m'intéresse beaucoup plus, bien sûr. Ça, c'est une musique que je continue à aimer énormément. Et en plus, qui me rappelle mes activités, d'une certaine façon, puisque c'est la musique qui clôt la période dont je m'occupe au musée, puisque ça a été joué en 1913 à Paris. C'est donc presque un symbole, c'est le début de la modernité, c'est une musique à laquelle je suis très très sensible, Stravinsky.
C'était la fin de la première partie du Sacre du Printemps, qui porte bien son nom,
oui, c'est
la danse de la terre.
C'est la danse de la terre, c'est l'irruption de la vie, enfin, c'est formidable.
Oui, mais un choix d'œuvre tonique comme ça...
Oui, je m'en suis aperçue après coup, puisque je vais vous demander de passer quelque chose que j'adore et qui pourrait être tonique et tonique, puisqu'il s'agit du Rameau, de l'ouverture de Zaïs.
Vous parliez tout à l'heure, pardon de vous couper, Françoise Cachin, vous parliez tout à l'heure de votre période en peinture. Alors, quelle est cette période?
Oui, bien sûr.
Tous les chercheurs ont des spécialités, des domaines de recherche.
Oui, quand je dis ma période, c'est une double casquette. Sous une double casquette que je parle, quand je parle de ma période, je parle de celle du musée dont je m'occupe, qui est le musée d'Orsay, dont la période chronologique est 1848-1914. Mais moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est la peinture, et c'est la peinture, en gros, entre 1860 et 1914. Et ce morceau de Stravinsky que nous avons écouté correspond pour moi à un moment absolument extraordinaire de toute la vie artistique, et qu'on retrouve, enfin, qu'on retrouve dans d'autres créations, qui ne sont d'ailleurs, entre parenthèses, pas présentées au Musée d'Orsay, parce que là, on est déjà dans l'art moderne. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui clôt la période qui m'intéresse le plus, qui, au fond, se termine à la guerre de 14, je dirais.
C'est ça. Et cette violence que les contemporains de la création du Sacre du printemps 1913 ont ressenti très fortement dans tous les articles de journaux, on en parlait véritablement comme d'un scandale. Ce qui s'est passé après n'était plus comme avant. Est-ce que, pour rejouer la suggestion de correspondance que je vous proposais tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait en peinture un ou deux peintres ou une ou plusieurs œuvres qui auraient fait le même effet que...
Oui, alors je ne connais pas bien l'histoire de la musique, mais il me semble me souvenir que le Sacre n'a pas été un tel scandale.
C'est le ballet qui a été...
Ah, c'est le ballet, oui, voilà. Mais la musique elle-même n'a pas scandalisé. Je pense qu'il y avait des tas de gens préparés à cette force, à cette violence. On est quand même après les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Quand vous me parlez de correspondance, c'est évidemment, je pense à Matisse, je pense à Picasso, je pense à toute cette espèce d'énergie extraordinaire qui est exprimée ailleurs, en particulier dans la peinture. Je crois que c'est un moment étonnant et que Stravinsky répond très bien à cela. Si je veux chercher une correspondance à tout prix, c'est plutôt vers le fauvisme, vers Matisse et puis évidemment vers Picasso, le côté cassé. D'ailleurs, ils travailleront ensemble plus tard.
Oui. C'est-à-dire, ce qui pourrait répondre à ce jeu de correspondance serait des formes figuratives, mais brisées, des rythmes apparaissant très, très violents dans la peinture, des oppositions de couleurs.
Oui, mais alors, si je réfléchis, vous me faites penser tout d'un coup à autre chose à quoi je n'avais évidemment pas pensé.
Allez-y.
Qui est que ce que j'aime en peinture aussi, c'est les choses assez fortes. Par exemple, j'aime énormément Manet. Et je retrouve des choses, je retrouve même avec Stravinsky. Peut-être tout à l'heure, on parlera de Manet à propos d'autres musiciens, mais j'aime beaucoup Gauguin, j'aime beaucoup... et c'est ces artistes, justement, qui expriment une énergie, une force dans leur façon de peindre. Je la retrouve là, dans la musique.
C'est ça.
Même si ce n'est pas exactement la même époque.
Et en remontant, justement, quelques siècles, on va aller vers Rameau, on va arriver vers cette ouverture de Zaïs... Et là, on va retrouver encore une puissance énergétique.
Oui, et je vois même certaines relations. Enfin, je sens, j'ai le même plaisir à écouter ce que nous venons d'entendre et ce que nous allons entendre.
Thank you.
C'était l'ouverture de Zaïs, de Rameau, qui était jouée par la petite bande de Gustave Leonhardt. Alors, ce qui est émouvant dans cette musique, c'est le chaos, d'ailleurs, ce que tout le monde a signalé. On se demande d'où elle vient. Cette musique commence pianissimo avec les effets de timbales.
C'est étonnant. C'est une des choses qui, alors, je trouve que le cœur se met à battre au rythme des tambours au début. On se demande ce qui va se passer. C'est extraordinaire. Et on voit peu à peu surgir du désordre, de quelque chose de profondément primitif, l'ordre s'installer, la mélodie, la raison. Enfin, je trouve ça sublime, absolument sublime. C'est un peu d'ailleurs le même genre d'impression qu'on a aussi dans Stravinsky, au fond, qu'on a entendu tout à l'heure.
C'est bon, il y a un mélange de chaos et de paix. Enfin, il n'y a pas
que... Oui, la paix arrive après le chaos et la violence.
Oui.
Et puis, c'est difficile d'expliquer pourquoi on aime... Je trouve que le début est une des choses les plus étonnantes de la musique. Cette espèce de force qui devient musique.
Ouais. Et qu'on aurait sûrement plus de plaisir à entendre en vrai, parce que le son des timbales, évidemment, emplit l'atmosphère. C'est une résonance tellement grave qui fait tellement vibrer...
Et les tambours, du début sont étonnants.
Oui. Alors, vous vous êtes intéressé quand même à l'opéra baroque, aux machineries, à tout. C'est un.
À vrai dire, non.
Non.
À vrai dire, non. J'ai vu deux ou trois opéras baroques qui m'ont énormément plu, en particulier, pas très longtemps, le couronnement de Poppée, qui m'a intéressée de beaucoup, beaucoup plus qu'avant, si vous voulez, à la musique baroque. Mais je me rends compte que c'est une musique qui m'a toujours beaucoup touchée, même si je n'avais pas été à l'opéra en tant que, que musique. La machinerie, oui, ça peut être quand c'est bien fait, c'est absolument merveilleux. C'est quelquefois un peu lent, un peu ennuyeux. Le côté spectacle me touche moins que la musique, en l'occurrence. C'est pas toujours vrai de l'opéra, mais en l'occurrence, oui.
Pourtant, dans la période, dans votre période, Françoise Cachin, il y a eu quand même dans le grand opéra français un retour
vers
la machinerie, si on pense à Robert le Diable et tout ça.
Bien sûr. C'est simplement une ignorance de ma part, un manque de connaissances. Disons, je ne suis pas une fanatique de l'opéra. Je ne suis pas une fanatique de l'opéra, on en reparlera plus tard. Une des raisons, c'est que je supporte assez mal les sopranos.
Ah oui, c'est embêtant.
C'est embêtant pour l'opéra.
Effectivement, c'est très
embêtant. Alors, en même temps, bien sûr, j'aime beaucoup, comme tout le monde, j'aime beaucoup Carmen, j'aime beaucoup Verdi, j'aime infiniment Mozart. Quand la Reine de la Nuit commence à chanter, je souffre un peu.
Ah oui.
C'est barbare de dire ça, mais autant vous le dire. Ce qui me prive de, certainement d'énormément de plaisir, mais je pense qu'il y a quelque chose de, dans mon oreille qui ne fonctionne pas, qui souffre à ce timbre un peu...
Les voix d'hommes vous gênent pas?
Ah, au contraire, je les adore.
Bon, alors ce sera, comme je sais que ce sera un chapitre que vous aurez envie d'aborder tout à l'heure, on va le laisser de côté. Vous me disiez tout à l'heure, ah là là, si j'avais pu faire un programme entièrement Monteverdi, je l'aurais fait.
C'est vrai. C'est vrai, et sans très bien savoir pourquoi. Ce n'est pas ma période, ce n'est pas une période que je connais particulièrement. Vous me direz, bien sûr, c'est l'époque de Shakespeare qui est pour moi un des dieux, c'est l'époque, ça me fait sans doute, plus ou moins consciemment, penser à Venise. Et à Venise, je pense à Monteverdi, maintenant que je connais mieux Monteverdi. Mais cette émission me donne envie d'en savoir beaucoup plus et de lire des choses sur la musique de cette époque, et sur Monteverdi en particulier, parce que j'ai le sentiment tout de même d'une nouveauté extraordinaire par rapport à tout ce qui s'est fait avant. Et sans être moderniste à tout craint et ne m'intéresser qu'à ce qui est neuf, je crois quand même que là, on a le sentiment d'un génie absolu, de quelque chose qui invente un art. Et bon, je le sens, comme ça, c'est tout. Et c'est un musicien qui me touche énormément.
Thank you.
Les trésors de France Musique.
Extrait du Magnificat de Claudio Monteverdi par les musiciens autour de John Eliot Gardiner. Alors, ce qui est beau, c'est qu'on a l'impression dans une telle musique que le temps n'existe plus, surtout dans le passage qu'on vient d'entendre avec la voix d'homme. Trouvez pas qu'on a un mélange entre ce qui pouvait être actuel et qui pouvait être l'issue de la commande qu'on avait donnée à Monteverdi et puis une manière de composer qui défie le temps, finalement.
Qui dépasse complètement le... Oui. Mais en même temps, moi, ce que je trouve merveilleux, là, c'est cette sérénité extraordinaire. D'abord, le texte est magnifique. « Deposuit potentes », il a fait descendre les puissants de leur trône et il a exalté les humbles. Enfin, c'est magnifique. C'est,
Oui.
Et en même temps, cette grande sérénité. Et puis, je dois dire que là, alors, le visuel reprend, reprend ses droits. Et je suis à Saint-Marc, je suis dans l'église Saint-Marc. J'ai peut-être tort, ça n'était pas, mais ça ne peut pas être ailleurs. Une espèce de grandeur, en même temps, de quelque chose de très voluptueux, de très serein. Dans mon esprit, c'est tout à fait lié à Venise.
Oui. Et dans parfois les mouvements qu'il y a dans Monteverdi, ces mouvements un petit peu chaloupés qui peuvent évoquer les gondoles et la présence
peut-être,
de l'eau, évidemment.
Peut-être, je n'y avais pas pensé, peut-être. Et effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait hors du temps, qui est extraordinairement moderne. Enfin, on n'a pas, comme quelquefois, moi j'ai avec Bach, j'ai le sentiment que c'est quand même une musique d'un autre temps, avec des sentiments différents, enfin, en tout cas très loin de moi, d'une certaine façon. Là, pas du tout. C'est quelque chose de tout à fait éternel, moins lié à quelque chose d'un peu plus étroit dans la religion, disons.
Oui. Vous vous mettez dans des attitudes d'esprit, des attitudes mentales différentes selon que vous entendez telle période musicale ou telle autre ?
Pas forcément, parce que...
Vous êtes toujours aussi réceptive, quoi.
Ah non, souvent je ne le suis pas du tout.
Ah oui, vous avez des dégoûts, alors.
Pas... J'ai des indifférences. J'ai des indifférences et j'ai quelques dégoûts, mais j'ai des indifférences. C'est plutôt ça, mon...
Oui.
Ma relation à la musique n'est pas une relation de grande passion. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute de la musique tout le temps chez moi.
En travaillant, jamais ?
Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux travailler dans le silence. Je ne peux travailler dans le silence.
Ça prouverait aussi peut-être que vous aimez énormément la musique.
En tout cas, que je... Oui, elle me gêne terriblement. Quand quelqu'un autour de moi met de la musique, je ne peux plus rien faire. Ça veut dire que probablement elle me touche profondément. Enfin, on peut l'interpréter comme ça. On peut dire aussi que je n'arrive pas à l'intégrer complètement à ce que je fais. Je ne peux pas écouter de la musique et faire autre chose. Sauf, bien sûr, de la musique très légère ou les choses contemporaines qu'on fredonne en même temps.
Qu'est-ce qui vous plaît dans Handel ?
Eh bien, là aussi, c'est très difficile à dire. C'est plutôt... une espèce de forme que je sens, une espèce d'énergie. Au fond, c'est un peu... j'aime ce que je voudrais qu'on écoute tout à l'heure, là, le Dixit Dominus, que je trouve superbe, pour justement cette énergie, cette vitalité, cette grandeur. Je trouve, j'aime quand la musique est grande, au fond. J'aime quand la musique, quelque chose qui dépasse le sentiment personnel, qui vous emmène vraiment, qui vous emmène très loin. Qui, à mon avis, la musique n'est bonne que très grande. Il peut y avoir de la charmante mauvaise peinture, il peut y avoir de la littérature de troisième zone, tout à fait délicieuse et qu'on adore. Pour moi, il faut que la musique, c'est peut-être innocent. Je veux dire, c'est peut-être parce que je ne connais pas. Je pense que c'est probablement ça. Mais j'aime la musique qui fait monter le cœur, enfin. Thank you.
Thank you.
début du Dixit Dominus de Georges Frédéric Handel par le chœur Monteverdi et l'orchestre Monteverdi en direction de John Eliot Gardiner. Bon, là, c'est...
Écoutez, c'est ce qu'il faudra écouter tous les matins quand on est un peu vaseux, en se levant, avant le café. C'est une leçon de vie, d'énergie, c'est magnifique. Mmh. Ce que je trouve merveilleux, là, sans rien y connaître, une fois de plus, c'est le passage constant et d'une subtilité extraordinaire entre les voix et les instruments, qui me semble fait avec une virtuosité extraordinaire. Et puis, cette certitude dans les formes, dans la vie, aucun doute. Je vous dis, quand on a le cafard, le matin, un peu de Handel, et je pense
un peu de Dixit Dominus.
Un peu de Dixit Dominus, ouais. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, sans le savoir, j'ai choisi quelque chose qu'il a fait à Rome.
Ouais.
Et probablement, qu'il y avait une exaltation particulière, mais là, je sens quelque chose peut-être de plus chaud que d'autres passages de Handel que j'ai pu entendre.
Oui.
Peut-être imaginaire.
Vous disiez tout à l'heure que vous appréciez particulièrement les musiques qui font monter le cœur.
Oui.
Hein? Ces musiques qui expriment... Enfin, là, il y a de la musique vocale et de la musique de cœur qui disent en quelque sorte l'unité des hommes face...
Oui.
Face au problème.
Une grande harmonie qui est bien difficile, qu'on voit rarement ailleurs que dans les chœurs. Mais je trouve que un très beau chœur est une des choses les plus belles qu'on puisse entendre. Un très beau chœur. Vous me demandiez tout à l'heure si j'avais fait de la musique, j'ai vaguement pianoté, c'est pas la peine d'en parler. Mais par passion, pendant un ou deux ans, quand j'étais étudiante, je suis entrée dans un chœur tout simplement. J'avais une voix pas mal, mais enfin rien d'extraordinaire. Et simplement, par plaisir, par un grand plaisir physique de chanter. Mmh. Et je comprends très bien le grand plaisir physique qu'on puisse avoir à chanter. C'est quelque chose de très fort.
Et puis si on aime autant cette musique de Handel, si elle nous plonge souvent, enfin, en tant qu'auditeur, dans l'enthousiasme, c'est qu'on se dit qu'on pourrait peut-être participer au chœur, on pourrait peut-être le chanter nous-mêmes.
Ah oui, d'ailleurs, on a envie de le fredonner, on a envie de repartir, Dixit Dominus, en ouvrant sa porte, et puis ça va un peu mieux. Mais en fait, c'est extraordinairement savant, on s'en rend bien compte, c'est pas vrai. On peut, on sent une science dans tout cela, dans laquelle il n'est pas question d'être amateur.
Oui, oui. Alors on va passer à une musique qui fait aussi monter le cœur, mais d'une autre manière, une musique de l'intimité, une musique de la nuit. Vous parliez du matin à l'instant, on va entendre un nocturne de Chopin. Et, là, je me demande bien pourquoi, après tout ce que vous avez dit.
Ouais, c'est un autre aspect de mes goûts musicaux. Jusqu'à présent, on a été plutôt baigné dans une musique forte. Évidemment, bon, qui n'aime pas Chopin ? Moi, j'ai une passion pour Chopin. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à trouver le nocturne que je voulais. J'en ai réécouté.
Il se disputait.
Il ne se disputait pas tellement. C'est assez intéressant parce qu'il y a tout un aspect de Chopin que j'ai éliminé d'emblée. Et je me suis rendu compte que c'était celui où, justement, il laissait aller le sentiment un peu trop loin. Ce que j'aime énormément dans ce qui va venir... C'est que, évidemment, là aussi, c'est le cœur, mais pas le cœur en écharpe. C'est le sentiment dans toute sa grandeur, dans toute son émotion, mais sans sentimentalisme.
Le sentiment sans sentimentalisme.
Voilà.
Thank you. Samson François, qui jouait ce nocturne. Donc du sentiment sans sentimentalisme. Vous disiez, mais ça tient beaucoup au pianiste aussi.
Oui, oh,
parce que bon, on pourrait faire du sirop quand même avec ça. Vous imaginez un pianiste qui appuie un petit peu plus.
Non, mais ça, j'aurais pas choisi.
Ah oui,
non, j'aurais pas choisi. Non, là, ce que je trouve absolument inouï, c'est ce qu'on peut dire, plus de choses tendres que Chopin le dit là. C'est mieux que des mots, c'est même mieux qu'une voix, je trouve, parce qu'il peut dire c'est beaucoup plus varié. Il dit énormément de choses. C'est toute la tendresse humaine.
Ouais. Ça m'étonne pas que vous ayez choisi ce morceau, parce que c'est un morceau qui chante. On se croirait. Chopin adorait le bel canto, vous savez.
Il admirait
Bellini.
Je vais horrifier tous mes amis mélomanes qui aiment les voix, mais je trouve que ça dit tellement plus de choses qu'une voix. Une voix, on entend une voix. Là, il y a plusieurs voix, il y a plusieurs sons, il y a plusieurs expressions. C'est d'une richesse extraordinaire. Mmh. Alors peut-être que le Samson François est à sa façon génial en interprète que Chopin. Mais est-ce que Chopin devait jouer comme ça? Non. Beaucoup. On ne sait pas.
Si on savait.
On ne sait pas.
Si on savait. On peut penser, oui.
Est-ce qu'on peut arriver à jouer ça de façon sirupeuse? Oui, peut-être.
Ah oui, ça s'imagine facilement.
Mais ça ne l'est pas.
Non, pas là. Alors on va passer à Wagner avec le prélude de l'Ordre du Rhin. Alors là, c'est difficile, on va passer que l'accord de mi bémol du prélude de l'Ordre du Rhin. Alors là,
vous
m'expliquez.
Oui,
ça.
Vous m'avez un peu grondé là. Mais... Il y a une raison, là aussi, qui est difficile à avouer, mais on est là pour tout dire. J'aime énormément, je vais dire une chose horrible qui va m'aliéner la moitié de vos auditeurs. J'aime énormément ce prélude de Wagner, et pour moi, il se gâte quand les filles du Rhin arrivent et commencent à chanter. C'est affreux de dire ça.
Nous perdons des auditeurs, chère madame.
Vous pas, parce que vous, évidemment, ne me suivez pas. Mais disons que pour moi, puisqu'on parle d'émotion, on est là pour parler de sentiments. Eh bien, pour moi, ma chaleur émotive tombe de deux crans, tout de suite.
Quand les filles du Rhin viennent à guichet à Berriche,
alors que là, j'imagine, ou je lis, ou j'entends, ou je vois.
Bon, alors, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette musique? Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette espèce de musique roulante, là? Bon, à l'évidence, bon, c'est le Rhin, quoi, c'est ça. Bon.
Oui, je ne pense pas spécialement au Rhin.
Non.
Je pense à tout ce qui est indicible, justement. Je pense à ce que la musique arrive à dire et qu'à certains moments, les poètes essayent de dire. Tout ce qui est indicible, tout ce qui est en deçà des mots, tout ce à partir de quoi les choses se passent. Je crois qu'il il exprime quelque chose d'extraordinairement neuf en musique. Je n'ai jamais entendu, ni depuis d'ailleurs. Peut-être avec Stravinsky, avec certains morceaux du Sacre. Mais d'abord, on sent, du point de vue formel, parce que je peux le transposer, quelque chose d'abstrait, de vague. C'est comme la mer. Moi, je ne pense pas au fleuve, je ne pense pas au Rhin.
Non, mais je disais ça pour vous provoquer un peu, pardon.
Mais je pense effectivement à la mer, je pense à quelque chose de primitif dont nous sommes tous sortis. Et là, je le sens. Je le sens, c'est une émotion très primordiale.
prélude de Lord Durin, ce même accord qui se constitue c'est, finalement c'est sous nos yeux.
C'est extraordinaire. On sent là une espèce de génie à l'état pur qui montre justement comment le génie se fait d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au début, c'est une espèce de désordre, de magma, de répétition un peu vague. Et puis le sens de tout ça apparaît, la mélodie apparaît. Enfin, je trouve ça bouleversant, c'est comme une naissance. C'est bouleversant.
Mm-hmm. C'est à ça que ça vous fait penser, une naissance.
Oui, tout à fait.
Toutes les métaphores
sont possibles, si vous voulez. Je dirais l'espèce de l'ordre sur le désordre. Bon, c'est au fond, qu'est-ce que ça définit? Ça définit la grandeur humaine. C'est l'humain qui sort du néant. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce. Je suis pas du tout spécialement wagnérienne, mais là, je reconnais, je comprends que les gens qui ont entendu ça au milieu du siècle dernier ont dû être absolument sidérés. Et je comprends Baudelaire, je comprends qu'il est tellement plus haut poète. C'est une musique extraordinairement poétique, littéraire, pour moi.
Mais d'une langue sans véritable scansion, enfin, d'une langue où la pulsation est très intérieure.
Oui, voilà, c'est là où probablement, pour les vrais wagnériens, je suis le total barbare, parce que ça me touche infiniment plus que les morceaux les plus époustouflants de ces chœurs ou de ces chants, qui sont par ailleurs, je le reconnais tout à fait, mais j'y suis extérieur. Là, je suis bouleversée, tout simplement bouleversée. Je trouve que c'est un des grands moments de la musique.
Ouais. Alors, je pense qu'on ne va pas réussir à trouver, Françoise Cachin, de relation avec la musique de Schubert que vous avez envie d'entendre après. Quoique
je n'en vois pas, en effet, je n'en vois pas, on n'est pas dans le même monde, mais on est dans un univers infiniment plus, je dirais, plus civilisé, entre guillemets, plus raffiné, plus, peut-être moins puissant, moins fort, moins inventif, mais parfait, merveilleux.
Ouais. On est sur Terre, tout simplement.
Je crois qu'il faut qu'on l'écoute avant.
On va l'écouter d'abord.
Ainsi se referme le premier volet de La Clé des Sentiments, une émission d'Olivier Bernager qui avait pour invité, en 1991, l'historienne de l'art et conservatrice du musée d'Orsay, Françoise Cachin. Nous la retrouverons demain pour la seconde partie de cet entretien. D'ici là, je vous invite à explorer nos archives en vous abonnant au podcast des Trésors de France Musique sur le site radiofrance.fr ou via l'appli Radio France. Merci à Béatrice Trichet qui réalise chaque jour nos trésors ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.